Nous rendons gloire et honneur au Seigneur qui nous fait grâce d'être là encore ce matin. Et pour moi particulièrement, qui m'a fait ce privilège de me tenir encore devant vous. Et je bénis le nom du Seigneur et je rends en même temps toute ma reconnaissance envers le pasteur et toute son équipe pour cette confiance renouvelée en notre personne. Et je crois que à cause de la grâce de Dieu et à cause de sa présence au milieu de nous, nous serons certainement bénis ce matin. Amen. Alors, nous allons partager sur un thème qui nous a été proposé par la paroisse qui est intitulé « Souviens-toi de ton premier amour ». Souviens-toi de ton premier amour. Est-ce qu'on peut juste m'aider à parler à son voisin de gauche, de droite, si possible de devant et de derrière? Ça serait aussi une occasion des gens de lui dire « Bienvenue dans la présence du Seigneur » et de lui souhaiter toutes les bénédictions possibles. Souviens-toi de ton premier amour. Nous allons lire un passage des Écritures, Apocalypse chapitre 2, du 1er jusqu'au 7e verset. Apocalypse chapitre 2, le 1er jusqu'au 7e verset. La Bible dit ce qui suit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. J'aimerais lire le même passage dans une autre version plus récente. Apocalypse 2, versets 1 à 7, la Bible dit « Écris à l'ange de l'église qui est à Éphèse. » Voici le message de celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. C'est lui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. On va prier le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ta bonté, ta faveur et ta grâce envers nous ce matin. Seigneur, alors que nos cœurs sont disposés, nos oreilles attentives, Seigneur, parle-nous ce matin. Laisse que ta parole éternelle, Dieu, éclaire nos chemins. Laisse que ta parole illumine les yeux de nos cœurs et laisse que ta parole renouvelle notre intelligence afin que nous connaissions ta volonté et surtout que nous puissions marcher selon elle. Bénis ces moments et bénis la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi de ton premier amour. Parler du premier amour, c'est juste parler de cette flamme que nous avions au début de notre marche avec Dieu. De ces désirs ardents qui bouillonnaient dans nos cœurs. Non pas de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Non pas de se plier en mille morceaux, de se casser en mille morceaux pour venir à l'église. Mais un désir ardent qui brûlait dans nos cœurs de plaire à Dieu, peu importe les temps, les lieux et les circonstances. Parler du premier amour, ce n'est pas le fait de venir d'abord servir Dieu. L'amour que nous avions pour le Seigneur au début n'est pas d'abord manifesté par la quantité ou par le degré de l'œuvre que nous rendons à Dieu, mais d'abord par la disposition de notre cœur à plaire au Seigneur partout où nous sommes. Par un état d'esprit qui, chaque matin on se réveille, le seul désir qui bouillonne dans nos cœurs, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Peu importe ce que ça va nous coûter, peu importe ce que les gens vont dire de nous. Et ce que je note un peu avec ces passages, c'est que l'Esprit, quand il se met à parler, quand il dit à Jean de parler à l'église qui est à Éphèse, il commence à louer ses œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, je connais tes efforts, je connais ta patience. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, serviteurs de Dieu, et tu les as trouvés menteurs. Ça, je sais. Il dit, je connais même ta persévérance. Mais bizarrement, après toutes ces louanges, le Seigneur finit par un reproche et dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Une façon de dire ce qu'il est possible de continuer à servir Dieu tout en n'est pas l'aimé. Il est possible de venir chaque jour à l'église, donner son énergie, donner de son argent, donner tout ce qu'on peut pour le Seigneur, pour l'avancement de son œuvre, mais ayant le cœur qui ne l'aime pas. D'ailleurs, Jésus dit une parole qui est forte, il dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il est possible de venir à l'église quand on entend les mots qui sortent de votre bouche, on a l'impression que vous dormez au ciel. On a l'impression que vous et Jésus, vous êtes tellement des besties que quand tu lui parles, c'est merveilleux. Mais Jésus nous dit qu'il est possible, malgré toutes les bonnes paroles qu'on peut lui dire, d'avoir le cœur éloigné de lui. Avec ces passages, on se rend compte qu'on peut multiplier des efforts, on peut même prêcher l'évangile, gagner les âmes pour le Seigneur, mais tout en ne l'aimant pas. Jésus encore le dit bien, il dit, plusieurs viendront à la fin, il dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas même donné des offrandes pour construire ton église, n'avons-nous pas aidé les évangélistes à prêcher ta parole, n'avons-nous pas fait tout ce qu'il faut pour que ta parole soit prêchée dans le monde entier. Mais ce qui me fait mal, c'est ce que Jésus dit, je leur dirai, sortez loin de ma face, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'on peut être serviteur de Dieu, on peut faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'œuvre de Dieu avance, tout en ayant le cœur complètement loin de lui, tout en ayant le cœur qui ne l'aime pas. On le fait juste par apparence, surtout quand on a déjà une certaine renommée. On a du mal à mettre ça de côté. On sait que celui-là, il fait ceci très bien. Toi-même, tu sais dans ton cœur que ça ne va pas. Maintenant, là, je ne peux pas faire ça. Mais puisqu'on sait déjà que je le fais et qu'on me sollicite, bon, que je le fasse juste parce qu'on me l'a demandé. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on sert Dieu parce qu'on nous l'a demandé ou parce qu'on l'aime? Non, que je passe juste à l'église pour que les parents ne disent rien, qu'ils ne parlent pas trop, pour qu'on ne me pose pas des questions. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Que je vienne seulement, mais le cœur n'est pas là. Souviens-toi de ton premier amour. Où est passé ce premier amour pour le Seigneur? On était prêt à prendre le risque de marcher seul, rester seul dans toute l'école, dans toute la faculté, dans toute l'université, mais pourvu que nous gardions nos cœurs proches de Dieu. Où on se rend compte que si je reste avec ces groupes, je risque de commencer à médire ou à mal parler des autres, même à calomnier. Alors pour éviter ça, je préfère même me retirer dans mon coin, rester avec Dieu. Mais après un moment, c'est dit, bon, pour qu'ils ne parlent pas trop, qu'on me dise que toi, tu es toujours seul, je vais essayer quand même de me rapprocher. Où est passé notre premier amour pour le Seigneur? Rapidement, j'aimerais que nous puissions noter quatre choses par rapport à premier amour. Ce que premièrement, l'ignorance de ce que Christ a subi sur la croix diminue en nous progressivement cet amour que nous avons pour lui. Je crois lors du séminaire de Pâques, le pasteur Pacifique l'avait bien dit. Lorsqu'on ignore le prix que Christ a payé pour notre salut, des fois, non seulement qu'on minimise les saluts que nous avons reçus de Dieu, mais en même temps, même lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous avons cru au Seigneur, mais cette ignorance finira par diminuer progressivement l'amour que nous avons pour le Seigneur. Parce que nous ne connaissons pas en réalité, pour que nous soyons enfants de Dieu, qu'est-ce qui a été payé comme prix. Paul le dit aux Philippiens, il dit, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel était semblable à Dieu, il n'a pas vu cela comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire, et il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce n'était pas une simple mort. La mort de la croix, c'était une mort que les Romains réservaient aux plus grands criminels. Et je vous assure, ceux qui faisaient cela, ce n'étaient pas des personnes qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était des personnes, je dirais, qui ont étudié l'art de faire du mal à quelqu'un. Donc, quand on amenait les personnes qu'on choisissait pour crucifier les gens, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils savaient où est-ce qu'ils doivent toucher dans le corps humain pour affliger à la personne la plus grande douleur possible. Mais ce que Jésus a subi n'a pas commencé juste quand il est monté à la croix. Ça a commencé bien avant la croix. Avant de monter à la croix, il a passé presque 2 jours sans rien manger, sans rien boire. Il a passé des temps, on est en train de le questionner, mais après ça, on l'a fouetté. On l'a frappé, la Bible dit 40 coups moins 1. Il a été frappé. Et les fouets qu'il a reçus, ce ne sont pas les fouets que nous avons actuellement. C'était des fouets avec un crochet à la fin, un peu, je crois, en métal. De sorte que quand tu recevais un coup, ça pénétrait tellement ta chair, quand ça sort, ça prend, et ta chair aussi, ça sort. Donc, imaginez le nombre de coups reçus par Jésus. Et il recevait ces coups ayant la fatigue due à la famine qu'il avait. Ça ne s'est pas limité là. Après tous ces coups qu'il a reçus, après la fatigue qu'il avait dans son corps, on l'a obligé encore de porter sa croix. Et quand là où il partait pour se faire crucifier, ce n'était pas un endroit où c'était plat, il fallait escalader encore une montagne. Avec toute cette fatigue-là. Et arrivé encore à la croix, tous les endroits où on plaçait les clous s'étaient fait en sorte qu'il puisse ressentir la plus grande douleur possible. Pendant des heures sur la croix, tous les poids de son corps étaient supportés juste par les clous qu'on avait mis sur ses mains. De sorte que plus il était là à la croix, il ne faisait qu'étouffer. Et même chaque mot, chaque parole que Jésus prononçait à la croix, il devait utiliser le peu de force qui lui restait. Mais il a fait ça, pas pour lui, pour nous qui sommes pécheurs, pour nous qui avons péché contre lui. Je me souviens, c'est un film intitulé « Jésus, l'enquête », où un monsieur avec sa femme, ils ne croyaient pas en Dieu, ils étaient des athées. Et après un moment, la femme du monsieur a fini par croire au travers d'une femme. Et quand son mari a vu comment sa femme changeait, il ne voulait pas accepter. Et il a dit à sa femme, « Ok, pour te montrer que toutes ces histoires-là de Jésus, des religions, c'est faux, moi-même, je vais faire des enquêtes pour prouver que c'est un mensonge. » Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire des enquêtes. Il est parti chez les serviteurs de Dieu. On lui a expliqué, il dit, « Non, ces gens, c'est peut-être parce qu'ils croient. C'est pourquoi aussi il me dit ça. » Il est allé jusqu'à voir un docteur pour qu'il lui parle un peu de la crucifixion. Et il lui pose la question, « Est-ce que ce serait possible que ses disciples ont plutôt menti, que Jésus en réalité n'était pas mort, mais ils ont juste monté un coup pour faire croire aux gens ?» Le docteur lui dit ceci, il dit, écoute, apparemment tu ne comprends pas très bien de quoi on parle de la crucifixion. Il est impossible de survivre lorsqu'on passe par là. Il est impossible. Donc si tu penses que c'était un coup monté, il dit, je te rassure déjà que ce n'était pas un coup monté. Ce que l'on dit dans la Bible à propos de Jésus, c'est qu'il a subi, c'est vraiment réel. Et au final, après les enquêtes, il a fini par croire en Jésus parce qu'il s'est rendu compte que c'était vrai. Deuxième des choses par rapport au premier amour, c'est que lorsqu'on perd le premier amour pour Dieu, c'est aussi Dieu qu'on commence à perdre de vue. Lorsqu'on perd le premier amour pour Dieu, c'est en même temps lui qu'on se met à perdre de vue. On croira être encore avec lui, pourtant il n'est plus avec nous. La Bible dit une parole qui me fait mal par rapport à Samson. Un bon matin, il se réveille, Delilah lui dit, les Philistins sont là. Samson dit que je m'en sortirai encore comme les autres fois. Mais la Bible souligne qu'il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. L'amour pour Dieu était déjà parti de son cœur. Il était déjà emporté par autre chose et il a perdu de vue Dieu, au point qu'il ne s'est même pas rendu compte que Dieu n'était plus là. Et c'est la même chose qui arrive. Lorsque nos cœurs n'arrivent plus à aimer Dieu, on perd tellement de vue Dieu qu'on ne sait plus se rendre compte qu'il n'est plus avec nous. Et surtout quand déjà on a acquis de la connaissance sur Dieu. Quand on a commencé à expérimenter, on est devenu expérimenté dans la marche chrétienne, on ne sait plus se rendre compte que Dieu n'est plus là. On commence à dire, je ferai comme la fois passée. Je continuerai à faire comme les autres fois. Et on ne sait pas se rendre compte que même quand Dieu n'est pas là, et on finit par trébucher. Troisième chose pour aller rapidement, c'est que lorsqu'on perd ses premiers amours pour Dieu, on se détourne du droit chemin sans s'en rendre compte ou sans le savoir. Lorsqu'on perd ses premiers amours, on commence même à se détourner du droit chemin sans le savoir. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a les rois Saül, il y a Samson que je venais de citer. Et il y a peut-être quelqu'un aussi ce matin qui a commencé déjà à se détourner du droit chemin, mais ne sait même pas s'en rendre compte. Et la quatrième des choses par rapport au premier amour, c'est que lorsqu'on perd le premier amour pour Dieu, on finit par devenir un aveugle spirituel. On devient aveugle complètement. On croit voir, mais pourtant nous sommes des aveugles. Comme Jésus disait aux pharisiens, ce sont des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Ils croient connaître la justice, pourtant ils se sont complètement détournés de la justice. Ils croient connaître la vérité, pourtant ils combattent la vérité. Ils croient être vrais, pourtant ils sont dans le faux depuis le commencement. Mais chaque jour, ils font pour l'apparence des longues prières, des longs services, beaucoup d'actes pour chercher à montrer que c'est nous les serviteurs de Dieu, c'est nous qui avons été consacrés par le Seigneur. Mais ils sont devenus des aveugles, au point que même l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé que le Messie devrait venir, il était sous leurs yeux, mais ils étaient incapables de les reconnaître. Les spécialistes de la loi n'ont pas reconnu le Messie, mais même ceux qui ne connaissaient même pas ce qui était dit sur lui l'ont reconnu. Ceux qui connaissaient avec exactitude ce qui était dit sur le Messie, lorsque le Messie était devant eux, ils n'ont pas su le voir. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y avait plus cet amour pour Dieu. Ils voulaient juste faire des choses parce qu'ils avaient ces noms ou ces titres qu'ils avaient. Les messies étaient là, au milieu d'eux, il a marché avec eux, il a mangé avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Serait-il possible que quelquefois le Seigneur vienne toquer à notre porte, mais on ne sait pas le reconnaître, on ne sait plus le reconnaître parce que nos cœurs ne l'aiment plus, parce que nous sommes devenus insensibles à sa voix. Il y a une histoire qui a longtemps circulé pendant un moment sur WhatsApp où on dit qu'il y avait une femme dans un village avec son enfant et un jour quand son bébé a dormi, elle est sortie, elle est allée au puits pour puiser de l'eau. Et en revenant, elle trouve autour de sa maison beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui se passe? La maison est en train de brûler. On dit, mon enfant est à l'intérieur. Il dit, mais madame, si tu entres, tu seras brûlée. Il dit, je m'en fous, je dois sauver mon enfant. Elle est entrée dans le feu, elle a sauvé son enfant, elle est sortie, mais elle n'est pas restée sans conséquence. Elle était brûlée, une partie de son corps. Mais quand même, elle a sauvé son enfant parce qu'elle aimait son enfant. Et après, on dit, d'après cette histoire qui circule, on dit que l'enfant a fini par grandir, il a étudié, il est devenu un grand monsieur. Et un jour, il organise une fête, il invite tous ses amis, donc il avait déjà un haut titre, donc ses amis, c'était des personnes haut cadrées et tout ça. Et sa mère aussi était là. Sa maman passe au milieu des invités, en train de saluer la foule, et son enfant vient lui dire, c'est maman, mais tu me fais honte au milieu de mes invités. Il dit, maman, est-ce que tu peux aller quand même te rester dans un coin? Parce que si tu restes ici, tu me fais honte. Parce que lui, il voyait la cicatrice de sa maman comme une honte pour lui. Pourtant, il ne sait pas que si sa maman n'avait pas pris ses risques, cette cicatrice-là, c'est pour lui sauver la vie. N'est-ce pas là aussi des fois notre attitude? La croix devient des fois une honte pour nous. Dire que j'appartiens à Dieu devient comme une honte. Pourtant, Christ a gardé les cicatrices de clous justement pour nous dire que ces clous-là, c'est pour te sauver, toi. Pourtant, il a gardé certaines cicatrices de sa crucifixion, juste pour nous dire que c'est pour te sauver. Mais maintenant que nous sommes sauvés, nous commençons à avoir honte de celui qui nous a aimés plus que tout. Nous commençons à avoir honte de celui qui a donné sa vie pour notre salut. Pour notre salut. Notons ensemble quelques éléments qui détruisent ou qui finissent par diminuer cet amour dans nos cœurs. Première des choses, c'est l'orgueil. L'orgueil des êtres humains font qu'ils ne savent plus voir Dieu dans leur vie. On devient tellement orgueilleux de ce que nous sommes capables de faire. Des fois, nous sommes même orgueilleux de ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes orgueilleux parce que Dieu nous a bénis, nous oublions d'où est-ce que nous avons commencé, d'où est-ce que nous sommes venus. Certains deviennent orgueilleux lorsque Dieu a exaucé leur prière. Il y a des gens qui oublient le chemin de l'église depuis le jour où Dieu a exaucé sa prière de lui donner un bon travail. Lui qui ne faisait pas du sport, du culte, commence à faire le sport le dimanche à l'heure du culte. Et quand vous lui dites que mon frère, c'est non, on a un club là, on doit aller faire du sport. Mais pourtant, avant que tu n'aies ce travail, ton sport, c'était la prière à l'église. Tu venais lundi jusqu'au dimanche, tu étais toujours là. Même quand le culte s'est terminé, on te dit, est-ce qu'on peut rentrer? Non, je dois encore prier un peu. Je sens dans mon cœur que je dois prier. Mais du coup, quand le travail est venu, on oublie le chemin de l'église. Là encore, on peut admettre, mais certains oublient même la prière. Même prier chez lui, c'est devenu compliqué. Lui qui se réveille chaque matin, il se met à prier. Du coup, il y a le travail. Non, je suis en retard. Bon, Seigneur, on a dû avioter. Amen, on y va. Et petit à petit, on commence à perdre de vue Dieu. Des fois, il y a l'orgueil des richesses. Jésus dit, voici comment il est difficile pour un riche d'entrer dans la vie éternelle. Et il dit même ce qui est fort, il dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'accéder à la vie. En réalité, la richesse n'a pas de problème. Mais Jésus ajoute en disant que c'est lui qui s'attache à ses richesses, celui-là aura du mal à accéder à la vie. Et il donne même une parabole, il dit, il y avait un homme qui a moissonné et ses greniers étaient remplis. Après, il dit à son âme, « Oh, mon âme, repose-toi parce que tu as assez pour manger. » Et Jésus dit, « Homme insensé, ne sais-tu pas que même cette nuit-là, tu peux mourir et puis tous ces biens-là que tu as, ça va partir. » D'ailleurs, après toi, ça va créer des problèmes dans la famille, les gens vont commencer à se disputer. Et comme nous sommes à Goma, certains risquent de se tuer parce que tu as acquis tellement de richesses dans la famille. Mais après ça, ça servira à quoi? Et savez-vous que nous allons tout laisser sur terre? Même quand on va enterrer là, on va laisser tout ça. Peu importe ce que nous aurons dans nos comptes en banque, dans nos poches, partout, nous ne quitterons pas la terre avec. Arrêtons d'être orgueilleux. Des fois, quand nous devenons trop orgueilleux, il y a tellement l'orgueil qui remplit nos cœurs. On ne sait plus voir Dieu. On perd de vue cet amour que nous avions pour lui. On se croit du coup capable par nous-mêmes. On a oublié qu'au début, nous tremblions. Jésus fait ces reproches-là à Saül. Saül, quand on le dénomme roi, au début, quand on voulait le montrer au peuple, la Bible dit qu'il allait se cacher dans un carton. Il a fui, il tremblait tellement parce qu'il se voyait tout petit. Il s'est dit, mais moi, le petit Saül, comment je puis diriger ce peuple? Mais après un moment, au fur et à mesure qu'il a commencé à diriger, lui qui cherchait à tout prix à connaître d'abord ce que Dieu disait avant d'agir, il commence à se permettre de faire par lui-même. Il part en guerre, Samuel lui dit, ne fais rien tant que je ne suis pas arrivé, parce qu'avant de combattre, on doit d'abord offrir à Dieu un sacrifice. Il se met à la guerre, champ de bataille, ils sont là, il attend, il dit, ah, on risque de nous battre ici, Samuel, je ne sais pas ce qu'il est devenu, bon, je vais faire, il prend les sacrifices, il commence, il sacrifie. Quand Samuel, et bizarrement, ce genre de choses, c'est justement quand on commence à perdre patience que c'est, des fois la chose commence à arriver. On se dit, ah, le chemin en question est trop long, et puis on se rend compte que nous sommes arrivés. Bizarrement, juste quand il a perdu patience, il sacrifie comme ça, et puis Samuel apparaît. Il dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu même de trembler comme avant pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, il dit, non, j'ai vu que tu venais en retard. Tu étais en retard, alors je me suis dit que non, je vais faire le sacrifice. Moi aussi, d'ailleurs, je suis aussi roi, je suis choisi par Dieu. J'ai fait le sacrifice, alors on va aller combattre. Samuel lui dit, mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as désobéi à Dieu? Il dit, parce que tu as fait cela, le Seigneur va t'arracher la royauté. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenons pas le risque de perdre ce qui a fait notre force au départ. Parce que ça risque aussi de nous faire perdre ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Lui qui était roi, choisi par Dieu, il n'y pensait même pas. Mais il a fini par perdre cela parce que son cœur s'est levé. Il y a un autre roi, je crois que c'est Josias ou Ozias, je ne me rappelle pas. La Bible dit qu'il était roi à 8 ans. Et quand il était jeune, il a appliqué son cœur à rechercher l'Éternel, à plaire à Dieu. Il a bâti tous les hauts lieux qu'on avait bâtis en Israël, il a détruit cela. Mais la Bible dit que lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Lui qui au départ s'est mis à rechercher Dieu, il s'est dit, non Seigneur, je suis trop jeune, je ne peux pas y arriver. Mais quand Dieu a commencé à l'élever, il l'a rendu très puissant. Son cœur s'est levé. Il n'a plus eu le temps de chercher Dieu. Et finalement, il s'est perdu. Lui qui avait détruit les hauts lieux, il a commencé à rebâtir les hauts lieux en Israël. Et finalement, il a mal fini sa course et il a amené des problèmes en Israël. Où est passé notre premier amour? Ne laissons pas l'orgueil venir prendre place dans nos cœurs parce que ça nous détruira. L'Éternel résiste aux orgueilleux. Ne laissons pas ce monde nous faire croire que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Il n'y a qu'un seul qui se suffit à lui-même, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui est El Shaddai, le Dieu tout suffisant. À part lui, il n'y a personne d'autre. Alors si nous sommes venus vers Dieu pour recevoir ce que nous avons reçu, pourquoi nous enorgueillir comme si nous l'avons reçu par nous-mêmes? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de l'Éternel? L'orgueil fait cela dans nos vies, nous fait diminuer le premier amour. Deuxième de choses, c'est le manque ou la perte de l'intentionnalité dans notre marche avec Dieu. Le manque d'intentionnalité. Cette chose vient souvent quand nous commençons à prendre pour acquis certaines choses que nous avons reçues peut-être par grâce ou que nous devons travailler pour garder cela. C'est-à-dire on a tellement tout fait, on a été tellement intentionnel dans toutes nos actions pour recevoir une chose. Mais quand on l'a reçu, on perd cette intention-là que nous avions au départ. Ça se manifeste surtout dans les relations. Et je vais encore plus particulariser les relations amoureuses surtout. Heureusement, il y a des parents ici et tout ça. On va revenir un peu à la vieille époque quand il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp. Ou quand il fallait dire à ton partenaire que tu l'aimes, il fallait écrire une lettre en manuscrit et te déplacer de chez toi, prendre le risque peut-être d'arriver chez elle avec ce que le papa peut dire et lui déposer la lettre. Je me dis, si aujourd'hui il n'y avait pas Internet, je crois que dès le départ, les relations allaient s'arrêter. Parce que de toute façon, les gens écrivent aujourd'hui, c'est compliqué. Des fois, tu lis les Français, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils voulaient dire finalement? Tu te demandes, bon, est-ce que on a tellement perdu les règles de grammaire que des fois, ça devient compliqué. Je me rappelle quand les diplômes sont sortis, il y a une blague qui a circulé sur WhatsApp. Quelqu'un écrit, il dit, grand frère, je n'ai pas eu un diplôme. Et son grand frère dit, même l'année prochaine, tu vas échouer. Parce que son grand frère dit, comment toi qui es en sixième secondaire, tu peux écrire ce genre de français? Donc, alors je me dis, s'il fallait encore exprimer son amour en manuscrit aujourd'hui, ça serait compliqué. Mais seulement ce que j'aimerais souligner, c'est que des fois quand on est tombé amoureux ou amoureuse de la personne, on est tellement intentionnel dans chaque action que nous posons parce que l'on veut que cet amour que nous avons pour la personne aussi ressente ça et puisse nous aimer en retour de la même manière. Mais le problème des fois, ce qui tue, c'est que lorsque maintenant la personne a dit oui, ça disparaît. Chaque matin, il fallait un poème, un long message. Des fois, on se demande si c'est vrai, mais bon, on ne sait pas. Dieu seul sait. Mais du coup, quand il a dit oui, ça commence à disparaître. Bon, elle est là, non, il est là. Au début, quand on a commencé des sorties à tout moment, il fallait des photos, il fallait. Donc, on était tellement intentionnel dans chaque geste que nous posons, dans chaque parole, dans chaque action posée, parce qu'on veut garder, on veut maintenir ce qu'on a reçu. Mais au fil du temps, lorsqu'on a reçu cela, on a gagné cela, cette intention se met à diminuer progressivement. Et c'est parmi les choses qui détruisent des relations humaines. De toutes les façons, il est là, t'as une nawapi. Bon, on est déjà marié, non, où est-ce qu'il va partir? Tu oublies qu'il peut rester là, mais deuxième regard. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de nulle part, il commence à offrir à la personne ce que toi, tu n'offres plus. Il peut peut-être se dire que bon, on est marié, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas divorcer, mais son cœur va commencer à partir. Alors j'aimerais juste ouvrir une parenthèse disant que aussi longtemps que vous le pouvez, selon les moyens que vous avez, continuez à être intentionnel dans vos relations. Ça va les maintenir, ça va les garder, ça va aller encore dégrandissant. Avec le temps, ça continuera à être encore plus fort. Même les relations amicales, continuons à être intentionnels. Et cela arrive même dans la marche avec Dieu. Quand on vient de rencontrer Dieu, on est intentionnel derrière chaque geste que nous posons. On est intentionnel derrière chaque parole, chaque chose que nous faisons au quotidien. On veut tellement connaître Dieu, on veut tellement être près de Dieu, on veut tellement vivre la vie que Dieu nous a donnée qu'on fait tout pour recevoir cela. Mais après, quand il a commencé à voir maintenant ces petites manifestations-là de la grâce de Dieu, on commence à perdre aussi cette intentionnalité. Nous qui commencions à nous réveiller, tu sacrifies ton sommeil pour dire qu'à 5 heures, je dois prier le Seigneur. Malgré le sommeil, tu pries. Mieux vaut dormir même en priant, mais pas ne pas prier. Et du coup, quand on est devenu expérimenté, si je peux le dire ainsi, on ne sait plus prier. Nous qui faisions tout, des fois même on s'éloignait, on refusait certains rendez-vous parce qu'on s'est dit que non, j'avais un programme avec Dieu en ces moments-là. Mais du coup, on s'est dit, bon, Dieu est partout et puis je peux prier à tout moment. On s'est dit, bon, d'accord, on peut y aller. Nous qui nous disions que non, maintenant que je veux connaître Dieu, il y a certains lieux que je vais arrêter de fréquenter. Il y a certaines personnes que je ne peux plus fréquenter parce que je veux garder cette vie-là que le Seigneur m'a donnée. On est tellement amoureux de Dieu qu'on s'est dit, Seigneur, chaque matin, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je devienne encore plus près de toi. Tellement intentionnel. Mais après, quand cette intimité-là commence à se ressentir dans nos cœurs, l'intention commence à se perdre. Du coup, on passe un jour sans lire la Bible. On s'est dit, bon, je vais prier, je vais faire ça demain. 2 jours, 3 jours, 4 jours, et le temps commence à passer. Et on revient encore au départ. On a perdu certains caractères parce qu'on s'est rapproché de Dieu. Mais du coup, quand on a commencé à avoir les caractères de Dieu en nous, on s'est dit que bon, là ça va, je vais un peu diminuer. On oublie que plus on s'éloigne de Dieu, les vieil homme reprend de la force. La chair revient avec force. Et là, on commence à perdre tout ce que l'on a gagné de Dieu. Serait-il possible que tu as tout gâché parce que tu as arrêté d'être intentionnel dans ce que tu fais pour Dieu? C'est devenu presque une formalité. On nous a appris que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, alors on doit aller à l'église. On nous a appris juste qu'il faut lire la Bible, alors laisse-moi lire la Bible. Mais on n'a plus ce désir-là juste de dire, Seigneur, je veux te connaître. Et ça a commencé à amener des problèmes dans nos vies. Serait-il possible que ce soit notre cas? Avant peut-être de finir par deux ou trois points, j'aimerais que nous puissions lire ce passage, Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, on peut juste lire du premier jusqu'au 13e verset où on va se limiter quelque part. Jérémie chapitre 2, le premier jusqu'au 13e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Dieu dit à Jérusalem, je me souviens de ces premiers jours-là, quand tu étais encore jeune. Je me rappelle de ces moments-là où tu me suivais partout, même dans les déserts, tu étais prêt à me suivre, tant que c'est moi qui étais là. Il dit, Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller près après des choses des néants et n'être eux-mêmes que néants? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. On peut même s'arrêter par là. Dieu dit à Israël, je me rappelle de comment tu m'aimais à l'époque. Et à cause de cet amour, voilà ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai donné un pays semblable à un verger pour que tu en jouisses. Mais lorsque tu es venu dans mon pays, au lieu de jouir de cela, au lieu de continuer à m'aimer afin de bénéficier de toutes mes grâces, tu as plutôt souillé mon pays. Je t'ai offert quelque chose de bon, un pays où tu n'as pas eu à cultiver pour recevoir de la moisson. Tu n'as pas eu à travailler pour avoir les plus grandes richesses du pays. Tu les as trouvées, je te les ai données comme ça, gratuitement. Mais qu'est-ce que tu en as fait? L'Éternel dit, je me souviens, Israël était consacré à l'Éternel. Mais après, la consécration est partie. Si vous lisez la suite, vous vous rendez compte, il dit, même vos prophètes, ils ont prophétisé au nom des Baals. Vos sacrificateurs, ce n'est plus en mon nom. Vous vous êtes prostitués en mettant des hauts lieux partout. Vous avez commencé à courir derrière de faux dieux. Dieu ajoute même en disant, avez-vous déjà vu un peuple abandonner son Dieu? Allez voir les Indiens, tous les dieux qu'ils ont. Pour qu'ils abandonnent ça, c'est compliqué. Mais pourtant, ce sont des faux dieux. Il dit, avez-vous vu les nations autour de nous? Allez voir même vos nations voisines. Avez-vous déjà vu un peuple abandonner son Dieu alors que ce n'est même pas un vrai Dieu? Et vous qui m'avez connu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais Israël, tu m'as abandonné pour courir derrière le bois, derrière la pierre, et tu as dit que c'est ça ton Dieu. Pourquoi as-tu fait cela? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous ne pouvons pas trouver en Dieu que nous trouvons dans ce monde? De quoi avons-nous besoin? Quel est le bonheur que nous recherchons dans ce monde que nous ne pouvons pas trouver en Dieu? Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que le cœur a besoin, se trouve en Dieu et en Dieu seul. Si nous avons besoin du pain, Jésus est la manne qui tombe du ciel. Il est le pain des vies. Si nous avons soif, il est celui qui donne la vie et celui qui donne l'eau de la vie. Et cette eau devient en nous une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Nous avons besoin de la paix. Il est le prince de paix. Qu'avons-nous besoin? Tout se trouve en Jésus. Il est le Dieu fidèle en tout temps. Qu'est-ce qui nous dérange? Qu'est-ce qui ronge nos cœurs? Sommes-nous brisés par les coups de la vie? Il n'y a que Jésus qui console. La Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Sommes-nous malheureux? Il n'y a que Dieu qui nous libère du malheur. Cherchons-nous le bonheur? Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies parce qu'il est notre berger. Et nous habiterons dans sa maison jusqu'à la fin de nos vies parce que l'Éternel est mon berger. David l'avait reconnu, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Passons-nous par la vallée de l'ombre de la mort, ne craignons rien parce qu'il est avec nous. Sommes-nous dans les ténèbres, il est la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde, c'est lui qui me suit, ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Qu'avons-nous besoin? Que cherchons-nous dans ce monde? Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pensons trouver dans ce monde n'est qu'éphémère, mais tout ce que nous recevons de Dieu est éternel. Et si nous attachons aux choses de ce monde, nous deviendrons éphémères de la même manière que ces choses sont éphémères. Mais lorsque nous attachons à Dieu, nous devenons aussi éternels parce que lui-même, il est éternel. Alléluia. Où est passé notre premier amour pour le Seigneur? Je ne parle pas du service, je l'ai dit au début. Je parle de cette disposition de cœur à plaire à Dieu, peu importe ce que ça nous coûte. On a tendance à vouloir célébrer les personnes que nous lisons dans la Bible. Mais ils ont bravé toutes choses parce qu'ils ont aimé Dieu. On les a frappés. Pierre et Jean, on vient de les fouetter. On leur dit, ne prêchez plus sous ces noms. Ils répondent, ils disent, bon, ok, dites-nous. Faut-il obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Et ils ajoutent en disant, nous ne pouvons pas ne pas parler à cause de ce que nous avons vu et entendu. Il y avait une menace de mort. Et même Saul, qui est devenu Paul après, il y avait une menace de mort, mais les disciples n'ont pas arrêté de suivre Jésus. Ils n'ont pas arrêté de suivre les commandements du Maître. Quand je parle de retrouver son premier amour, je parle du désir de demeurer dans sa parole, dans sa présence, peu importe ce que ça nous coûte, d'obéir à ses voix à chaque instant. Et ce n'est qu'en lui que nous trouverons le vrai bonheur. Ce n'est qu'en lui que nous trouverons la vraie joie. Ce n'est qu'en lui que nous trouverons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux dans ce monde. Retenons juste trois choses. Comment faire alors si l'on veut retrouver ses premiers amours? Première de choses, je vais aller rapidement vu que mon temps est déjà fini. Je vais aller rapidement. Premièrement, c'est que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi, quand est-ce que ça commençait? Quand est-ce que ça a commencé à diminuer, à sortir de ton cœur? Quand est-ce que tu as commencé à aimer Dieu de moins en moins? Quand est-ce que ça a commencé? C'est là d'abord la première étape. Parce que si tu ne te souviens pas de cela, ça deviendra compliqué. Ou alors, si au moins tu ne te souviens pas précisément, mais est-ce que tu reconnais au moins qu'il n'y en a plus dans ton cœur? Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi quand est-ce que cet amour a commencé à diminuer. Si tu te souviens de cela, deuxièmement, il faudrait croire alors en l'amour, à la compassion et à la miséricorde de Dieu. Croire que même si je me suis détourné de Dieu, si je reviens vers lui de tout mon cœur, il m'ouvrira encore la porte. Si l'on ne sait plus croire à l'amour de Dieu, on aura même du mal à nous repentir. Si on ne croit plus en la bonté de Dieu, on ne saura pas se rapprocher de lui. Si l'on croit que Dieu ne va plus nous accueillir, on ne saura plus. Ce qui nous ramène de Dieu, c'est de dire que même si je me suis détourné de Dieu, lorsque je viens vers lui pour me repentir, il m'accueillera à nouveau à cause de son amour. Il m'accueillera à nouveau. Et la dernière des choses, c'est que Dieu dit encore à l'église d'Éphèse, il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Commence à faire encore ce que tu faisais au début. Répands-toi. Viens juste de tout ton cœur devant le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai perdu cet amour. J'ai peut-être essayé de récupérer, mais je ne suis pas arrivé. Mais je vais juste venir vers toi pour demander, pardonne-moi. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un, laisse et puis viens, laisse tout ce que tu as fait, laisse tes fardeaux et puis viens vers le Seigneur. Non. Je t'ai dit, viens avec tous ces fardeaux que tu as, viens avec tous tes péchés, tout ce que tu as fait. Lui va te décharger de tout cela. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Viens tel que tu es, ce n'est que Jésus qui te libérera de tout cela. De tous ces poids qui a pesé, qui a écrasé ton cœur. Il n'y a que lui qui te libérera de cela. Viens tel que tu es. Et il y a une illustration que Jésus donne dans Luc chapitre 15, à partir du 17e jusqu'au 24e verset. Le fils prodigue. Le fils qui a demandé son héritage à son père et qui finalement est allé tout dilapider, la Bible souligne, en vivant dans la débauche. Et après, il a commencé à se retrouver dans le malheur, au point qu'il cherchait même à manger la nourriture des pourceaux. Mais même ça, on ne lui en donnait pas. Après un moment, il s'est dit que non, je ne peux pas continuer à souffrir ainsi. Et il revient vers son père. Il dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton enfant. » Il dit, « Prends-moi même comme l'un de tes serviteurs, mais pourvu que je sois dans ta maison. » Et la Bible dit, quand il juste l'a fini à parler, son père a appelé les serviteurs, disant que, « Voici mon fils, revêtez-lui de la plus belle robe, allez tuer un animal, on va faire la fête. » Parce que mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il a été retrouvé. Et tout ça, Jésus disait juste ceci, il y a une très grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un seul pécheur crée beaucoup de joie dans le ciel. Et quand nous revenons vers Dieu de tous nos cœurs, il ne tient pas compte de nos iniquités, mais il nous traite selon son amour, sa grâce et sa grande miséricorde. Mais il faut revenir vers lui de tout son cœur. Alléluia. Tu es peut-être là, tu as essayé, par tes propres efforts, ça n'a pas marché. Ce n'est pas encore fini, il y a encore une solution. Ça a pris peut-être du temps, tu as essayé, tu as réessayé, ça n'a pas marché. Mais il reste encore du temps. L'amour de Dieu est un peu comparable à l'amour des mères ou des mamans. Je me rappelle une période quand j'étais enfant, j'ai joué avec une boîte de conserve. Et la façon dont on avait ouvert, il y avait comme une extension que je voulais complètement arracher. Alors, j'avais fait l'erreur de mettre ça sous mon pied et de vouloir tirer comme ça. Or, quand j'étais là, ma mère était juste à côté avec une de ses amies, était en train de parler. Elle m'a vu faire ça, elle m'a même interdit. Fais attention, tu risques d'être blessé. J'ai fait semblant comme si j'allais laisser et j'ai continué à faire ce que je faisais. Et au final, en faisant cela, ça finit par me blesser. Ça m'a vraiment coupé, il y avait une très grande plaie. Les sangs ont commencé à couler. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, maman m'avait interdit. Si je vais vers elle, ne va-t-elle pas me frapper au lieu d'abord de régler le problème de la plaie? Et au lieu de venir vers ma mère, j'ai commencé à rester dans mon coin, commencé à pleurer par ma mère. J'ai même eu peur de sortir de là. Je ne voulais pas qu'elle s'en rende compte. Mais ce qui est bizarre, c'était son ami qui a remarqué que j'étais blessé. Elle dit, mais l'enfant est blessé, le sang est en train de couler. Quand maman me voit, au lieu même de crier pour moi, elle criait sur moi, mais tout en me prenant, m'amenant au robinet, commençait à laver mes pieds, cherchait à régler le problème. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est récemment, je crois l'année passée, que ça m'est un peu revenu à la tête. Et je crois que c'est le Seigneur qui voulait juste me faire comprendre son amour. Parce que des fois, même lorsque nous sommes conscients que nous avons désobéi à Dieu, il nous arrive d'avoir peur, de dire, mais si je reviens vers Dieu, ne va-t-il pas me frapper au lieu de régler le problème? Ne va-t-il pas gronder sur moi? Mais de la même manière que ma mère a pris d'abord le soin de régler le problème, j'aimerais juste te dire à quelqu'un, lorsqu'on revient vers Dieu, il règle avant tout le problème. Il ne garde pas sa colère éternellement, non. Il règle d'abord le problème. Alors n'hésite pas, ne laisse pas l'ennemi te faire croire que Dieu est tellement méchant qu'il va te frapper. Non, il est amour. Il a manifesté son amour depuis la croix. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Peu importe ce que tu as commis, peu importe ce que tu fais, il n'est pas encore trop tard. Alléluia. On va juste incliner nos têtes pendant quelques secondes, on va prier. Pulisema na pochinwa nikui ite ivileo na kuita nisiki pulisema na pochinwa nikuite ivileo Akuita nisiki, déclare-le encore plus fort. Baba ulisema, sema na moshindwa nikuite ivi leo na kuita nisiki siki usiende mbali nami. Usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze bado nakuita.
Yesu yongozi mwema moyo wangu nakuhitaji niongoze nivuke salama Mungu wangu encore une fois uniongoze uniongoze bado nakuhitaji uniongoze Yesu kiongozi mwema moyo wangu nakuhitaji niongoze nivuke salama Mungu wangu uniongoze kweli ulisema Yesu Mana poshindwa nikuite Ivi leo nakuita Nisiki Baba ulisema na poshindwa Isikie usiende de mbali nami usinyache peke yangu Mungu wangu.
Alors pendant que juste la mélodie sera en train de jouer, si telle est ta prière ce matin, tu te sens fatigué. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, je ne peux plus par moi-même, je viens vers toi. Là où tu es, tu vas juste te lever. Je vais inviter l'ancien Dieu Exauce qui va prier pour nous tous. Tu sais que tu es fatigué. Tu veux vraiment dire que ce cantique est réellement le désir de ton cœur ce matin. Lève-toi juste là où tu es, nous allons prier ensemble. Lève-toi juste pour dire à Dieu, Seigneur, j'en peux plus. Tu as dit que si je ne peux plus par moi-même, que je vienne vers toi, que je fasse appel à toi. Est-ce que tu peux te lever devant le Seigneur et nous allons prier ensemble? Tu reconnais dans ton cœur que tu es fatigué. Tu veux réellement dire à Dieu, Seigneur, j'ai essayé, je ne peux pas. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Alors lève-toi dans la présence de Dieu, juste quelques secondes. Lève-toi et on va prier pour nous. Si c'est ta prière, lève-toi devant le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Tu veux que l'Éternel intervienne. Tu veux que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu te conduise totalement. Lève-toi devant le Seigneur et nous allons prier. La Sainte Exauce va élever sa voix et prier pour nous.
Parce que tu es grand, tu ne cesses de nous témoigner ton amour du jour le jour. Et ce avant-midi, tu nous as rappelé que nous devons revenir au premier amour que nous t'avons montré à retour lorsque nous avons découvert que tu nous as aimés. Et ses frères et sœurs, ils prennent conscience qu'ils ont relâché d'une manière ou d'une autre dans leur relation avec toi. Ils ne sont pas debout devant un homme, parce que ce n'est pas un homme qui leur a parlé, c'est toi, Seigneur. Esprit de puissance et d'autorité, de connaissance et de révélation, merci pour ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de cette église, nous sommes en train de te voir agir puissamment parce que c'est toi qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Ces bien-aimés qui se confient à toi dans la joie, je prie Seigneur que tu les fortifies. Tu connais là où ils ont broché, tu connais là où ils ont besoin d'être soutenus par toi pour qu'ils reviennent à ce premier amour et qu'ils commencent à s'attacher davantage à toi. Seigneur, je prie que tu les fortifies, que tu les soutiennes, que tu les tiennes par la main et qu'ils sentent ton accompagnement. Au nom de Jésus-Christ, Je suis en train de m'élever contre toute forme de puissance qui les a tirés par derrière pour les détacher de ton amour. Seigneur, laisse que cela échoue désormais dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que cette œuvre que tu as commencée dans cette église, dans cette vie, dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, Seigneur, tu vas l'accomplir pour ta toute grande gloire. Sois béni et sois élevé, parce qu'au-delà de tout ce que nous te demandons, tu y agis. Bénis ta parole dans nos cœurs. Même si nous ne sommes pas tous levés, chacun de nous ici présents a besoin de toi dans un domaine ou l'autre, parce que nous avons besoin de te plaire par-dessus tout. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni, parce que nous croyons que tu nous combles de bien dans ta présence, dans les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci.
Merci beaucoup.